Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous en ce dimanche 1er mai. D'ailleurs, bon 1er mai à vous et l'occasion de vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez avec des audiences qui progressent largement pour le grand rendez-vous. Évidemment, je remercie mes camarades Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Bonjour. Je vous salue. Bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Alors après la présidentielle, cap sur les législatives. Dans un paysage politique toujours plus chamboulé, on parle beaucoup de l'union des gauches. Mais est-elle totalement et définitivement impossible pour les droites? Nous allons l'évoquer avec deux invités à partir de 10h30. C'est un nouveau visage de la droite. Il est secrétaire général du mouvement LR, Aurélien Pradier. Il est pour une droite fière et indépendante, mais vous l'aurez compris, le chemin est encore long. Et tout d'abord, premier invité pour ce grand rendez-vous, Guillaume Pelletier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors la grande question, Guillaume Pelletier, c'est quel avenir pour votre mouvement Reconquête? On va largement en parler après la défaite à la présidentielle et certaines déclarations maladroites, en tous les cas jugées comme telles, d'Éric Zemmour. Mais tout d'abord, l'actualité, c'est Emmanuel Macron qui temporise, qui prend son temps avant de choisir son Premier ministre et le nouveau gouvernement. De quoi est-ce le signe, selon vous ?
Je crois d'abord que la victoire d'Emmanuel Macron s'impose à tous. Il est le président de la République pour les 5 prochaines années. Je crois toutefois que c'est un président sans état de grâce et je dirais même qu'en cet instant, c'est déjà un président en état de disgrâce. En état de disgrâce parce qu'il a d'abord été plutôt mal élu. À peine 2 Français sur 5 l'ont choisi le 24 avril dernier. Il a tout fait pour escamoter, contourner, détourner, éviter la campagne présidentielle, refusant les débats, n'assumant pas son bilan, ne présentant rien de son projet pour les 5 prochaines années. Et déjà, ce matin, les Français sont mécontents. Je voyais quelques sondages, 55% des Français qui considèrent que son élection est une mauvaise chose pour la France, ou 2/3 de nos compatriotes qu'ils souhaitent, ce qui est inédit, qu'une cohabitation surgisse en France en juin prochain pour ne pas donner, ils ont raison, les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron.
Vous avez dit mal élu. On a beaucoup entendu de critiques et d'attaques directes cette semaine, notamment président le plus mal élu de la 5e. Il a été prouvé, chiffre à l'appui, que ce n'est pas vraiment le cas. Il y a eu aussi quand même ces mots de François Ruffin de la France Insoumise, le bâtard de François Hollande. Est-ce que vous condamnez une telle virulence? Et parfois, peut-être même, on est au bord de l'insulte.
Oui, ces mots n'ont aucun sens, mais ça ne m'étonne pas de la part de la France insoumise, qui est toujours dans la caricature et la violence verbale. Mais ce qui est vrai, et je l'ai expliqué, c'est que lorsqu'à peine 2 Français sur 5 vous font confiance, cela vous oblige et explique sans doute les tergiversations actuelles. Mais j'alerte nos compatriotes ce matin, le pire est à venir. C'est avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va gouverner à gauche et avec l'ultra-gauche. Ce qui s'apprête à émerger lors des élections législatives, c'est d'avoir à la fois un bloc macroniste et un bloc mélenchoniste. Et donc, j'appelle encore plus aujourd'hui qu'hier toutes les droites et tous les patriotes à s'unir et à se rassembler pour ne pas confier les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon.
Mais justement, dans le contexte présent, le grand duel qui se présente, c'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et les droites ont été disqualifiées, qu'il s'agisse de RN, du RN, qu'il s'agisse de Reconquête ou même des LR. Quel espace pour les droites dans les circonstances ?
Alors, d'abord, avoir le courage, l'humilité, la lucidité de dire que les électeurs de droite et les patriotes ne sont pas condamnés ou à être trahis avec les dirigeants, les Républicains, ou à perdre avec le Rassemblement national. Qu'il y a un acte fondateur qui a été posé par Éric Zemmour, posé par le mouvement Reconquête, qui certes, parce que tout cela est très jeune, n'a pas remporté les élections présidentielles, ça n'a échappé à personne, mais qui est arrivé en 4e position, qui a rassemblé 2 500 000 électeurs et qui va, tout au long des prochains mois et des prochaines années, refonder la droite française. Parce que là où vous avez raison, c'est d'avoir la force de reconnaître les raisons de notre défaite, des défaites de notre camp, le camp national. Est-ce que c'est à cause de notre idéal que la France reste la France? Non. Est-ce que c'est à cause de notre projet? Arrêter l'immigration, baisser les impôts et les taxes, augmenter les salaires, lutter de manière radicale contre la délinquance et l'insécurité. Je ne le crois pas non plus. Est-ce à cause des Français? Certainement pas.
Alors c'est à cause
d'une mauvaise stratégie. Parce que depuis 40 ans,
que vous avez établi, droites... pardonnez-moi.
Non, je vais y revenir. Non, justement, l'acte fondateur qui, vous verrez, durera sur le temps. Vous savez, il y a une phrase très jolie de Charles Péguy qui dit la chose suivante. Les soirs de victoire, on estime qu'il n'y aura plus jamais, jamais de défaite. Et les soirs de défaite, on estime, on s'imagine qu'il n'y aura plus jamais, jamais de victoire. Et quand on est un vieux soldat, on sait qu'il n'en est pas ainsi et que tout reste possible. Et qu'après des défaites, il y a beaucoup de victoires et qu'après de victoires, il y a beaucoup de défaites. Et donc, notre état d'esprit
Pelletier, ce matin... notre état d'esprit, c'est vieux comme le monde, ce que vous dites, oui. C'est vrai. Et vous avez acté d'une défaite, mais nous, on a remarqué que depuis
Vous savez, il
n'y
en a pas beaucoup qui actent et qui reconnaissent et une
c'est
défaite et ses raisons. Et les raisons que nous posons, nous, avec Éric Zemmour, c'est une raison stratégique et non pas une raison idéologique. Ça fait 40 ans que les droites... qui se présentaient au suffrage, que ce soit le Front National ou les Républicains, ont été incapables de s'entendre et de se réunir.
Oui, mais c'est toujours le cas. Le Rassemblement National, par exemple, refuse votre offre d'alliance.
Vous avez tout à fait
raison.
Comment
est-ce que vous allez surmonter ça, si vous voulez unir la droite, comme vous dites ?
C'est une œuvre de longue haleine. Vous savez, le général de Gaulle, en 1946, a attendu 12 ans pour fédérer le peuple face au parti. François Mitterrand, en 1969, ne pouvant pas se présenter, a attendu 12 ans pour pouvoir réunir les gauches et se présenter en 1981. Quant à Jean-Luc Mélenchon, qu'on cite abondamment, quand il quitte le Parti Socialiste en 2008, il a mis 14 ans, et ça n'est pas encore réussi, à fédérer les gauches. Nous, notre ambition avec Éric Zemmour, en cet instant, là encore, de manière grave et solennelle, c'est de lancer un ultime appel à certains dirigeants des Républicains, je pense à Éric Ciotti, Nadine Morano et quelques autres, aux dirigeants du Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Voulez-vous être responsable les 12 et 19 juin de l'élection d'une majorité absolue pour Emmanuel Macron et d'un bloc considérable de députés indigénistes et islamo-gauchistes à l'Assemblée nationale. Nous, avec Éric Zemmour, nous ne le souhaitons pas.
Il ne pose pas la question ainsi.
Nous souhaitons rassembler et fédérer toutes les droites et tous les patriotes.
Bien, vous posez la question ainsi, ils ne l'envisagent pas du tout ainsi si on entend les déclarations du Rassemblement national. Ils estiment aujourd'hui que vous pourriez disparaître et à en croire, en tous les cas, la stratégie de Marine Le Pen, elle acte plutôt sur votre mort politique. Nous n'avons pas besoin de vous, disent-ils de leur côté. Voilà la réponse à votre ultime main tendue.
Eh bien, ils l'assumeront devant les électeurs et devant les Français dans les semaines et les mois qui viennent. Nous présenterons mardi prochain avec Éric Zemmour, Marion Maréchal et Nicolas Bay, si cet appel n'est pas entendu, nos 550 candidats avec l'étiquette Reconquête.
550 candidats.
Oui, puisque vous avez vu que dans certaines circonscriptions, pour montrer notre bonne volonté, nous ne présenterons pas de candidats, ni contre Marine Le Pen, ni contre Nicolas Dupont-Aignan, ni contre Éric Ciotti. Parce que, vous savez, ce qui compte en politique comme en amour, ce sont les preuves. Éric Zemmour, dès le soir du premier tour, sans condition, a appelé à voter Marine Le Pen. Éric Zemmour, au lendemain du second tour, a tendu la main pour cette union des droites et des patriotes. Mercredi dernier, notre comité politique a décidé de ne pas présenter de candidat face à Le Pen, Dupont-Aignan et Ciotti. Nous lançons encore ce matin cet ultime appel. Si cet appel n'est pas entendu, les Républicains
main,
et le Rassemblement...
Il y a des moqueries et des railleries sur votre stratégie. Votre comportement a été jugé à tort ou à travers, peut-être à tort ou à raison, pardon, arrogant.
Vous savez, on ne perd jamais à tendre la main et à vouloir mettre de côté les querelles d'ego pour sauver la France. Sauf que je dis que ceux qui refusent cette main tendue acceptent et accepteront sur le temps long la fatalité de la défaite, la culture de la défaite, l'esprit de la défaite. Ça n'est pas notre intention avec Éric Zemmour. Et là, le débat posé est celui-ci. Nous voulons sauver la France. Pour sauver la France, il faut gagner les élections. Et pour gagner les élections, il faut unir une majorité de Français d'accord sur l'essentiel. Le grand enjeu qui vient est de rassembler les droites et les patriotes, de rassembler les bourgeois patriotes et les ouvriers identitaires, d'associer ces deux blocs, la droite et les patriotes, pour enfin gagner les élections. Ceux qui refusent chez les Républicains et au Rassemblement National cette stratégie d'union porteront, oui, une immense responsabilité. Mais je lance aussi cet appel d'espoir ce matin, puisque Reconquête, si cette union est refusée, présentera des candidats dans toutes les circonscriptions de France. Et nous allons semer en 2022, nous allons moissonner en 2024 lors des élections européennes et nous pourrons savourer et déguster la victoire en 2027 à l'occasion de l'élection présidentielle. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de victoire sans esprit d'unité.
Alors, vous allez présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Il n'est pas inimaginable que vous n'en fassiez élire aucun. À tout le moins, ce n'est pas une même possibilité. Comment un tel mouvement, tout naissant, tout jeune, peut-il survivre s'il n'a aucune représentation parlementaire ou une représentation famélique?
Tout d'abord, vous l'avez noté, heureusement, ces élections législatives ne se sont pas encore déroulées. Donc attendons,
mais vous prenez au sérieux
attendons
ce scénario.
Les 12 et 19 juin, et il n'est pas du tout impensable aujourd'hui si les 2 500 000 électeurs d'Éric Zemmour se mobilisent à nouveau en juin, et si tous ceux qui se sont trompés à travers un vote d'urgence ou un vote utile en votant qui pour Emmanuel Macron, qui pour Marine Le Pen, nous rejoignent, tout est aujourd'hui envisageable.
Au législatif, au-delà, on vote pour des considérations locales. Hein.
Oui. Vous savez, j'ai été maire, je suis député depuis 2017 et je suis bien placé pour savoir que l'élection législative, puisque nous élisons les députés de l'Assemblée nationale, les législateurs, c'est avant tout un scrutin national. Et nous lançons, là encore, cet appel aux Français. Si vous voulez que la droite continue à perdre, si vous voulez laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à l'ultra-gauche, si vous voulez que les islamo-gauchistes envahissent l'Assemblée nationale, continuez à voter pour des partis qui refusent l'unité.
Si à l'inverse, la droite, c'est aussi Emmanuel Macron.
Attendez.
Mais permettez-moi de poser quelques questions pour nourrir votre argumentaire.
Si à l'inverse, vous voulez une vraie politique de droite, une vraie politique patriotique, si vous voulez arrêter l'immigration, si vous voulez soutenir nos policiers et nos gendarmes, si vous voulez enfin baisser... Oui, mais enfin, les législatives, c'est aussi un moyen de compenser ou de corriger son vote à l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr, là, que les Français rêvent d'un Emmanuel Macron disposant des pleins pouvoirs.
Et il sera candidat, Éric Zemmour ?
Alors,
pour mener cette stratégie que vous décrivez, qui est nationale, vous dites que c'est une élection nationale, législative.
Les généraux doivent montrer l'exemple, et ils montreront bien entendu l'exemple, que ce soit Éric Zemmour, moi-même, Marion Maréchal, Nicolas Bay. Nous verrons dans quelle articulation il faut à la fois des exemples de candidats, il faut aussi des généraux qui organisent, coordonnent cette campagne des élections législatives. Mais oui, si c'est, vous voulez me faire dire ce matin que tout va bien pour la droite française et les patriotes, que nous avons gagné l'élection présidentielle, que nous allons avoir un raz-de-marée aux élections législatives, non, je suis lucide. Mais je dis aussi qu'il faut tirer les leçons de cette défaite, qu'il faut regarder ce que d'autres ont fait ou ont su faire. Emmanuel Macron est dans une démarche d'unité, Jean-Luc Mélenchon est dans une démarche d'unité. Nous regrettons avec Éric Zemmour que les Républicains et le Rassemblement National ne soient pas aujourd'hui dans cette démarche d'unité. Cette unité est une œuvre de longue haleine et nous y parviendrons sur le temps long.
Une courte pause et on va continuer à parler de cette alliance. Est-elle impossible justement à droite ? Pourquoi cette apparemment impossible union à droite ? Et vous nous répondrez plus précisément sur l'avenir d'Éric Zemmour, le vôtre et d'autres également pour ces législatives. On se retrouve en direct sur Europe 1 et CNews.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et avec notre invité, vice-président exécutif du mouvement Reconquête, Guillaume Pelletier, vous avez dressé le paysage politique formé de blocs, le bloc central macroniste, le bloc à la gauche de la gauche, que vous avez qualifié aussi d'islamo-gauchiste. Face à cela, Guillaume Pelletier, vous appelez à l'union des droites. On va continuer à en parler. Encore une précision concernant à la fois votre avenir et celui d'Éric Zemmour. On vous entend bien ce matin. Vous comptez mener cette bataille vous-même des législatives avec les incarnations et j'allais dire évidemment celle d'Éric Zemmour aussi, ça vous semble pertinent que vous alliez tous dans cette bataille-là ?
Ah ça c'est certain, c'est que nous serons tous à 100% dans cette bataille, mais je le disais avec beaucoup de vérité et de transparence, il faudra à la fois des généraux candidats dans les circonscriptions, ce peut être Éric Zemmour, ce peut être moi, Marion Maréchal, mais il faudra aussi des généraux pour coordonner à travers un mouvement jeune, vous savez, 550 candidatures, finaliser nos accords avec nos alliés, puisque nous avons commencé cette union des droites et des patriotes, puisque nous sommes en train de finaliser un accord avec le CNIP de Bruno Nors, via de Jean-Frédéric Poisson, le mouvement conservateur de Laurence Trochu, déjà 4 mouvements qui vont se rassembler pour cette élection législative, et donc tout ça prend du temps, vous savez, mener 550 campagnes, ça nécessite aussi du temps, et donc d'ici quelques jours, à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine, nous vous présenterons aussi ceux qui mèneront directement la campagne.
Ce n'est pas par peur de l'échec que vous n'irez pas.
Ah, certainement pas. Vous savez, moi j'ai perdu 5 ou 6 fois dans mes premières campagnes, dans les années 2000. J'ai gagné les 5 dernières élections. J'ai encore conquis un canton à gauche il y a à peine un an, le canton de Chambord, qui était à gauche depuis 42 ans. Donc moi j'adore les campagnes électorales. Mais ce qui compte, au-delà de nos cas personnels, est de penser à sauver son siège. Le grand objectif de cet acte fondateur qu'a posé Éric Zemmour, c'est de sauver la France. Et je le répète, pour sauver la France, nous devons gagner les élections et donc créer les conditions d'un grand rassemblement des droites et des patriotes demain et après-demain.
Guillaume Pelletier, la question est toute simple, comment tenir ? Imaginons que les législatives ne soient pas idéales pour vous. Pour un nouveau mouvement, pour un jeune mouvement, les législatives, c'est rarement l'idéal. Tenir, ça s'appelle les européennes. Comment tenir 2 ans sans échéance électorale? Comment tenir 2 ans sans les grands meetings qui mobilisent vos militants? Comment tenir 2 ans sans représentation parlementaire? Comment tenir dans l'invisibilité?
Alors, je pense exactement le contraire. Je pense que le Parlement est évidemment une entité fondamentale dans notre République. Moi, je suis très fier d'être député de la nation. Mais je sais aussi, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même le dit, Emmanuel Macron lui-même, qui n'a jamais été député, l'a démontré. Ce qui va compter, et nous préparons justement tous ces travaux avec Marion Maréchal, Nicolas Bay et Éric Zemmour, c'est de refonder totalement la droite française au sens large. Créer un institut de formation, détecter et identifier les nouveaux talents, former oui. des cadres sur le temps long, influencer les universités et le monde médiatique. Tout ce travail de longue haleine que la droite a refusé de faire pendant 40 ans pour remporter enfin la bataille culturelle.
Ça veut dire quoi, influencer? Le RN n'est pas pour l'union des droites, mais ne se définit même pas dans ce bloc-là.
Sonia Mabrouk, aujourd'hui...
Ah, vous pensez que dans quelques temps, ils y seront contraints et amenés à le faire?
De manière inéluctable, on le verra aux élections européennes. Nous serons, par exemple, nous présents aux élections européennes. Nous avons un message très fort pour les élections européennes. Imaginez un seul instant, une seule seconde, une liste avec Éric Zemmour, Marion Maréchal et un certain nombre de personnalités de reconquête. Nous ouvrirons la porte et nous continuerons à tendre la main à des responsables ou des élus des Républicains ou de Rassemblement National pour changer la donne au niveau européen et inverser la donne au niveau national. Donc vous savez, il y a beaucoup d'espoir, d'espérance et de détermination sur le temps long avec nous.
En fait, on interroge votre analyse vraiment à long terme. Est-ce que cette jonction entre... on met beaucoup de guillemets, classe populaire et on va dire bourgeoisie patriote ou la bourgeoisie de droite est vraiment possible. Pour Marine Le Pen, non. Pour aujourd'hui et pour demain, elle vous dit non. En quoi vous pensez que cette jonction est-elle possible? C'est ça aussi qui pourrait structurer ou pas l'union des droites.
La question que vous posez, elle est centrale. Tout est là. Vous savez, pour gagner les élections et pour sauver notre pays, il faut rassembler un peuple. Jean-Luc Mélenchon l'a compris lui aussi, il est en train de rassembler... les islamistes, les musulmans radicaux, les wokistes.
C'est ça le peuple
l'ultra-gauche. Ah bah, regardez la sociologie électorale. Disons la vérité. Voilà le bloc mélenchoniste.
Il peut y avoir des Français musulmans sans qu'ils soient radicaux.
J'ai pas dit qu'il y avait.
Pour Jean-Luc Mélenchon.
Je parle de ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Oui, je crois qu'il y a une majorité de Français musulmans qui aiment la France et qui ne croient absolument pas en la stratégie de sécession proposée par l'extrême gauche. Mais aujourd'hui, ce bloc d'extrême gauche rassemble les musulmans qui n'aiment pas la France, rassemble les wokistes qui veulent détruire notre civilisation et l'extrême-gauche radicale. C'est une évidence. À nous, et comment je vais vous le démontrer, Éric Zemmour a déjà commencé. Pour la première fois dans notre histoire, regardez la sociologie électorale et nos résultats électoraux. Où Éric Zemmour emporte ses meilleurs scores? Auprès d'une partie de la bourgeoisie conservatrice. Mmh. Une bourgeoisie conservatrice qui avait quitté depuis bien longtemps le camp national. Imaginez une seule seconde, d'ailleurs les projections et les nôtres, et les sondages d'Agir le démontrent, si Reconquête, le Rassemblement national et les Républicains sincères s'unissaient ce matin, ce ne sont pas 10 ou 15 députés, ce sont 200 à 250 députés qui seraient élus à l'Assemblée nationale pour sauver notre pays, stopper l'immigration et éradiquer la délinquance. Il faut que chacun le mesure, c'est grave ce que je dis. Et ceux qui refusent cette main tendue porteront une immense responsabilité et ce ne sera certainement pas eux qu'il faudra écouter pendant les 5 prochaines années quand Macron et Mélenchon dirigeront à deux notre pays.
Guillaume Pelletier, néanmoins, au soir du deuxième tour, nous le savons, Éric Zemmour a lancé cet appel à l'union des patriotes et des droites et l'a aussi condamné par ailleurs Marine Le Pen en disant que c'est la 8e fois qu'une Le Pen perd ou un Le Pen perd à la présidentielle. Est-ce que cette déclaration n'a pas d'une certaine manière condamné votre proposition à l'irrecevabilité?
Deux choses. Alors, je ne crois pas deux choses. D'abord, relisons ou réécoutons cette déclaration
c'était
dans son entier.
Quand même.
Elle commence par « hélas, hélas, hélas ». Et elle se conclut « ça n'est pas de gaieté de cœur que je prends acte de cette énième défaite ». Il faut que chacun fasse son auto-critique, le Rassemblement national aussi. Si nous basculons, nous, dans l'archéologie de toutes les petites phrases des uns et des autres, celles que nous avons pu tenir, celles qu'ont pu tenir les dirigeants du Front national ou celle des dirigeants Les Républicains, on ne s'en sortira pas. Nous nous disons, et c'était la conclusion d'ailleurs de l'intervention d'Éric Zemmour, oublions nos vaines querelles, unissons nos forces. Là est l'enjeu de l'élection.
Elles ne sont pas oubliées par le camp de Marine Le Pen. C'est pour ça qu'on vous pose la question. On voit bien que depuis une semaine, il y a des suppliques de votre part. Et semble-t-il, est-ce que Marine Le Pen ne parie pas tout simplement sur, je vous ai posé la question tout à l'heure sur votre mort politique, tout simplement. Est-ce que vous le pensez ? Est-ce que c'est
Je ne l'espère pas. Si c'est le cas, je l'appelle à regarder son engagement politique, son parcours politique, son amour de la France qu'elle prétend incarner, de regarder aussi, et pourtant Dieu sait que c'est un adversaire politique, ce que fait aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Il a été combattu par Europe Écologie Les Verts, il a été combattu par le Parti communiste. Je dirais même que Fabien Roussel l'a privé d'accès au second tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, au nom de ses convictions, lui, il est capable de rassembler autour de la table toutes les forces de gauche. Eh bien, avec Éric Zemmour, nous le disons avec détermination, avec enthousiasme, et nous démontrerons notre victoire aux européennes et en 2027 pour l'élection présidentielle. Nous voulons plus que tout, au-delà de toutes les querelles, au-delà de toutes les divisions, rassembler tous ceux qui aiment la France, tous ceux qui, de droite ou patriotes, veulent redresser notre pays. Tel est le défi vital, essentiel, existentiel, en tout cas, que je souhaite en tant que vice-président exécutif avec mes amis Marion, Nicolas et Éric Zemmour, incarné sur le temps long.
Et vous l'avez dit, donc c'est une œuvre de long terme que vous visez. Et pour gagner, vous avez également dit tout à l'heure que ça suppose aussi d'influencer l'université. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ?
Ah, nous devons, et nous le ferons avec beaucoup de moyens dès l'automne prochain, créer des syndicats, créer des associations, c'est-à-dire faire ce que la gauche a fait il y a 40 ans, que la droite n'a jamais fait, c'est-à-dire autour de Reconquête, en lien avec cette jeunesse fantastique dont le cœur brûle d'amour pour la France, on l'a vu. Vous savez, ce raz-de-marée militant, c'est 125 000 adhérents aujourd'hui, c'est 2 500 000 électeurs, les images du Trocadéro, le palais des sports avec près de 6 000 jeunes, tout ça, ça n'était pas vain. Tout ça porte les germes, demain, de grandes victoires. Bien sûr qu'il y a défaite aujourd'hui, à nous d'en tirer les leçons et les conséquences et de préparer la grande reconquête électorale, pourquoi mais aussi la reconquête des cœurs et des esprits.
Pourquoi certains partent, on ne va pas les citer, mais certains semblent quitter le navire. Peut-être estiment-ils que leur fonction est terminée au sein de Reconquête. On a l'impression que tout n'est pas au beau fixe. Hein. Il ne s'agit pas de voir quels sont l'état des relations, mais de comprendre aujourd'hui comment votre mouvement...
En vérité, il y en a qui partent pour d'autres horizons professionnels. Je pense par exemple à Jean Messia, avec qui les liens sont extrêmement forts, mais qui a décidé une autre aventure personnelle, et ce qui est totalement son droit. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a mille fois plus d'arrivées que de départs. Nous allons franchir cet après-midi les 125 000 adhérents. Nous sommes le premier parti de France. Eh bien, cette espérance, à nous de la travailler avec humilité, ténacité, endurance. Oui, cette année 2022 n'a permis, hélas, que de semer, mais le temps de la moisson en 2024 et en 2027 viendra. Et donc j'appelle tous les amoureux de la France à nous rejoindre pour bâtir le grand mouvement de la droite populaire, le grand mouvement des patriotes qui demain sera capable de battre Emmanuel Macron, d'empêcher Jean-Luc Mélenchon de l'emporter et de constituer ce grand courant national identitaire dont la France a besoin.
Alors vous invitez le Rassemblement National à l'autocritique, vous invitez les Républicains à l'autocritique, je devine que vous vous invitez vous-même à l'autocritique.
Bien sûr.
Quelle est l'erreur dans cette campagne qui a fait en sorte que ça n'a pas donné le résultat que vous souhaitiez ? Au-delà des circonstances extérieures, votre part de responsabilité ?
Je pense que nous avons négligé deux choses. Nous avons négligé le temps, c'est-à-dire que pour remporter une élection présidentielle, on l'a vu, les trois premiers furent candidats dans le passé déjà. Et c'est compliqué quand on est néo-candidat de pouvoir l'emporter. Et deuxièmement, je l'évoquais dès le début de cette émission, l'importance de l'axe stratégique. Notre chef, Éric Zemmour, est le plus honnête, le plus courageux et le plus sincère des hommes politiques actuels.
Ça, c'est
nous avons une équipe remarquable et c'est une force avec Marion Maréchal, Nicolas Bay et nos parlementaires.
Attendez.
Je viens de vous dire qu'on n'avait pas eu, sans doute à 7 ans, on n'avait pas mesuré cette importance et que nous avions eu le tort uniquement d'axer notre campagne, et c'était noble, sur des convictions, négligeant l'axe stratégique, alors qu'Emmanuel Macron n'a fait que ça, que Marine Le Pen n'a fait que ça avec le vote utile et que Jean-Luc Mélenchon n'a fait que ça avec le vote utile à gauche. Et c'est la raison pour laquelle, tirant les leçons de cette erreur, nous disons désormais que nous ne changerons rien de nos convictions, nous ne changerons rien de notre organisation, mais que nous allons faire de l'axe stratégique de l'union des droites et des patriotes, c'est-à-dire de l'alliance du bloc populaire et de la bourgeoisie identitaire, l'axe central du retour de la droite et de nos victoires aux élections européennes et aux élections présidentielles. En tout cas, tous ceux qui, au Front National ou chez les Républicains, continueront à tenter de créer un avenir en restant dans l'entre-soi et uniquement autour d'eux-mêmes, sont condamnés à la défaite. Pour gagner demain, il faut unir et rassembler. Et donc, avec Éric Zemmour, nous le disons, notre porte est ouverte à tous ceux qui, chez LR et ORN, veulent bâtir le grand mouvement de la droite populaire.
Merci à vous, Guillaume Pelletier.
À vous.
Place à notre second invité. Peut-être que vous le connaissez, d'ailleurs, Aurélien Pradier, secrétaire général du mouvement Les Républicains. Peut-être que vous lancez cet appel pour lui également.
Pour tout le monde. Bon courage, Aurélien. Et si tu aimes la France plus que ta carrière, viens avec nous.
Eh bien, en tout cas, il vous répondra. C'est une figure de la nouvelle génération, comme on dit, qui veut prendre le pouvoir, mais au sein de son parti, Les Républicains. Il nous répondra sur votre appel et l'Alliance des droites. Une courte pause et on se retrouve. Merci encore, Guillaume
Pelletier.
Merci
Pelletier. À vous.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous en ce dimanche 1er mai à la fois sur Europe 1 et CNews. Autre invité, second invité du grand rendez-vous aujourd'hui, Aurélien Pradier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes la nouvelle figure, en tous les cas nouvelle génération à droite. Vous êtes secrétaire général des LR. Peut-être une première question, certains de nos auditeurs et de nos téléspectateurs ne vous connaissent pas forcément, vont peut-être vous découvrir ce matin. Quelle droite incarnez-vous? Comment définiriez-vous votre droite?
Je ne sais pas. D'abord, je suis un gamin du Lot, un petit département rural où j'ai grandi. J'ai fait mes classes à l'école de la République. J'étais maire, j'ai été élu local, avant de devenir député dans cette terre qui était imprenable, réputée imprenable pour la droite républicaine. Je viens d'une famille qui n'a jamais vraiment fait de politique, d'un milieu modeste. Bref, je dois tout à mon pays, tout à mon département, tout à la République, et j'essaie de le lui rendre. Et les raisons profondes pour lesquelles je me suis engagé en politique quand j'étais tout gamin, était une volonté qui ne m'a pas quitté de lutter contre les injustices. Je pense qu'il n'y a pas de raison de faire de la politique si on n'est pas ardemment, puissamment convaincu qu'on doit corriger ce qui est injuste dans un pays. Et je fais partie d'une génération qui vit beaucoup d'injustices. Notre pays, je le pense, à beaucoup d'étages est injuste. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé gamin en politique, en faisant ma première campagne en mobilette face à mon instituteur. Et aujourd'hui, j'essaie de rendre à mon pays, à mon territoire, ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a appris. Et la droite à laquelle j'appartiens, ce n'est pas une droite de punition, ce n'est pas une droite sectaire, ce n'est pas une droite qui se vend, ce n'est pas une droite de la métapolitique. J'écoutais tout à l'heure les débats auxquels je ne comprends rien. Ouais, des conservateurs, des progressistes, je trouve ça passionnant sûrement pour nous, pour vous. Mais ce n'est pas ce qui, moi, me préoccupe au quotidien. Ma préoccupation, c'est de régler les problèmes de mes concitoyens. Alors, je sais que ça peut paraître méprisable. Parfois, on se dit tout ça, c'est de la petite politique, de sous-préfet. Non, non, non. Régler le problème de nos concitoyens, les problèmes de nos concitoyens, c'est faire de la vraie politique.
Mais j'imagine que tout le monde le veut dans votre parti. Est-ce à dire, parce que vous avez dit ne pas se vendre aussi, est-ce à dire que ceux dans votre parti qui veulent rejoindre Emmanuel Macron sont dans une logique de petites boutiques et de petits arrangements?
Oui, je le crois. La vie politique est devenue une espèce de foire au bétail depuis quelques années et quelques mois. Et ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est l'inversion des valeurs. Moi, je ne prétends pas être un héros politique. J'ai beaucoup de défauts, beaucoup de fragilités, de faiblesses aussi. Mais quand je me suis engagé tout jeune en politique, j'ai admiré des femmes et des hommes qui tenaient bon dans leurs convictions, et qui parfois n'avaient pas eu le poste qu'ils espéraient au moment où ils le souhaitaient, mais qui avaient défendu des convictions profondes, immenses.
À qui pensez-vous?
Je pense à Philippe Séguin, par exemple. Je pense à quelques autres personnalités, y compris parfois à gauche. Je pense à des communistes dont j'ai vu le parcours s'inscrire dans une forme de fidélité, quitte à ne jamais accéder vraiment aux grandes responsabilités, au gyrophare sur la voiture et au poste de sous-secrétaire d'État, au chou farci, au je ne sais quoi. Non, vraiment, je pense que la période que nous vivons est désespérante pour
Mais
nos concitoyens.
Veut pourquoi rejoindre Emmanuel Macron, ça voudrait dire ne pas respecter ses convictions? Pourquoi ceux qui, à droite aujourd'hui, vont le rejoindre peut-être aussi pour des questions de conviction, parce qu'ils estiment peut-être qu'il a aussi mené une politique de droite? Pourquoi est-ce qu'il se vendrait, entre guillemets?
Je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas une seule seconde que celles et ceux qui, dans une famille politique comme les Républicains, iraient demain chez Emmanuel Macron, le feraient par conviction. Et je pense qu'il faut en finir avec cela.
Et crois pourquoi que...
Mais parce vous avez que... des grandes figures de droite qui ont rejoint Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, comme Bruno Le Maire, comme Darmanin, etc.
Oui, enfin, pardon pour les grandes figures de droite, vous les jugez peut-être comme des grandes figures de droite.
Enfin,
Philippe Séguin, pour moi, était une plus grande figure de droite que ce que vous avez cité. Non, ce qui me frappe, et je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est que je trouve qu'on a une forme d'inversion des valeurs et qu'on s'est habitué à une perte d'honneur en politique. code d'honneur en politique, y compris parfois de rester fidèle à une famille politique, à un parti politique.
Être enfermé dans un parti, est-ce un code d'honneur ?
Oui, je crois que c'est un code d'honneur. Et je crois que le fait de ne pas déroger à cette règle-là pourrait aussi faire en sorte que les politiques soient plus respectées qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ce qui me frappe vraiment depuis 5 ans, ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute de tous ceux qui participent à ce jeu-là, c'est cette inversion des valeurs. Désormais, être courageux, ce serait trahir sa famille politique. Mais moi, je crois que le courage, c'est aussi d'y rester fidèle, y compris quand c'est difficile.
C'est quand même quelqu'un qui a une aura sur votre famille et sur la droite en général, qui a initié aussi ce mouvement. C'est l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui va plus loin, hein, d'ailleurs, qui espère d'ailleurs une espèce de coalition. Vous le mettez aussi dans ce que vous qualifiez de petits et de ceux qui s'arrangent avec leurs convictions ?
Nicolas Sarkozy n'a pas à courir après un poste ministériel ou je ne sais quoi. Ça fait une grande différence avec les autres. Moi, j'ai une divergence de point de vue avec Nicolas Sarkozy. Je pense que le choix qu'il fait de nous pousser vers Emmanuel Macron est une erreur. D'abord, c'est une erreur que je ne comprends pas au fond. Parce que pour moi, il n'y a rien de commun entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, y compris dans leur relation aux Français, ce qui n'est pas un détail. Pour le reste, vous le disiez, j'appartiens à une génération qui a connu beaucoup d'échecs politiques de la part parfois de nos aînés, y compris le dernier échec politique de Nicolas Sarkozy. Sûrement qu'il y a des pages à tourner. Celle-ci en fait partie et ce sera à ma génération de le faire.
Ah, vous dites vous êtes en lutte contre les injustices. Telle est votre conviction première. Fabien Roussel dirait la même chose. Yannick Jadot dirait la même chose. Marine Le Pen dirait la même chose. Édouard Philippe dirait la même chose. Donc il doit y avoir un peu plus que la lutte contre les injustices dans votre combat. D'autant que vous êtes irréconciliable, si je comprends bien, avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous rend irréconciliable avec, au-delà des intérêts que vous prêtez aux ralliés, qu'est-ce qui vous rend irréconciliable avec le parti macroniste ?
Mais vous parlez des injustices. La lutte contre les injustices, j'ai tâché de la mener avec d'autres de mes collègues à l'Assemblée nationale. Je peux vous assurer que j'ai vu des grands points de divergence avec Emmanuel Macron. Et je sais que ça va vous paraître un peu microscopique, mais prenons un exemple très concret.
Non, pas microscopique, mais venant de droite, faire la leçon, je ne dis pas que, évidemment, vous ne vous occupez pas des injustices, mais faire la leçon au parti macroniste sur les injustices, c'est un positionnement qui est assez original, on va dire.
Non, il n'est pas original. Il renoue avec ce qu'a toujours été...
Vous êtes à droite sociale, alors.
Il renoue avec ce qu'a toujours été la droite française. Qui, dans notre paysage politique depuis des décennies, a mené les plus grands combats en matière de handicap ? La droite républicaine et Jacques Chirac en particulier. Qui a mené les plus grands combats pour protéger les femmes depuis Simone Veil et tant d'autres lois qui ont été portées par la droite républicaine ? Qui a veillé à ce que le travail paye vraiment, ce qui est une véritable justice sociale ? C'est la droite républicaine. Et votre question est importante parce qu'il est probable que depuis quelques années... Au fond, je crois depuis la deuxième campagne électorale, de Nicolas Sarkozy, on est perdu de vue que l'ADN de la droite républicaine, c'était d'installer de la justice dans notre pays.
Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, prenons un exemple concret. Durant 5 ans, avec d'autres de mes collègues, j'ai bataillé pour déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Mm-hmm. Voilà un sujet qui n'est pas un petit sujet, qui est un sujet qui dit beaucoup des injustices de notre pays. Ceux qui nous écoutent le savent peut-être pas, on a aujourd'hui dans notre pays une allocation adulte handicapé qui est conditionnée au revenu du conjoint. C'est une injustice profonde et pas un détail technique. Nous sommes battus pendant 5 ans sur ce sujet et je me suis moi-même battu sur ce sujet. Qui a refusé de corriger cette injustice ? Emmanuel Macron et son gouvernement. Eh bien voilà un sujet qui n'est pas un détail. Ce détail-là, il dit une différence de vision de la société entre nous, la droite républicaine, et Emmanuel Macron.
Il a promis de le faire lors du débat. D'ailleurs, c'était un point d'accord avec Marine Le Pen.
C'était surtout, mais à l'Assemblée nationale, ce combat-là, Marine Le Pen, elle n'était pas là lorsqu'on l'a menée. Vous savez, il y a un écart.
En tout cas, tous les deux étaient d'accord pour corriger cette injustice.
Peut-être, mais moi, je juge au fait. Il y a ceux qui parlent beaucoup et puis il y a ceux qui font. Et je vous redis que ce sujet-là est pour moi la démonstration de deux visions de la société. Et je considère que la vision de la société que j'ai n'est pas la même que celle d'Emmanuel Macron, ce qui est mon droit le plus strict.
Mais donc, je relance la question, parce que plusieurs cherchent à y répondre en ce moment. David Lisnard, dans le Figaro, dit « La droite, c'est la lutte contre le social-étatisme et le retour à la nation ». D'autres proposent de François-Xavier Bellamy à sa réponse. Xavier Bertrand, la sienne. Vous nous dites lutter contre l'injustice, mais ça, tout le monde est pour ça. Donc, concrètement, si vous deviez nommer votre vision politique, au-delà de dire que vous êtes contre la méchanceté et contre les injustices.
Je ne voudrais pas être désagréable avec vous, mais je crois que vous avez un défaut. J'en ai beaucoup aussi.
Allez-y.
C'est de ne pas regarder la politique concrète. Tous les sujets que j'ai évoqués, y compris celui de la lutte contre les violences conjugales, la dernière grande loi que nous avons portée à l'Assemblée nationale a été portée par la droite républicaine pour protéger les femmes et les enfants. Ça, c'est la définition de ce qu'est la droite républicaine. Et je n'adhère pas à cette méthode politique depuis quelques années qui consiste à théoriser les choses. Moi, je ne sais pas si je suis étatiste, conservateur, progressiste, et je vais vous dire...
Oui, mais vous avez pu définir que vous êtes une droite sociale. Oui. Vous avez pu définir que vous avez quand même, évidemment, une appétence sur la lutte contre les inégalités. Donc, vous arrivez placer dans l'échiquier. Ce qu'on ne comprend pas, Aurélien Pradier, depuis le début de cette émission, c'est que si demain, et au-delà de ces allées et venues vers les partis, si Damien Abad ou d'autres vont vers Emmanuel Macron, ce sont quand même des profils qui sont comme vous, qui font partie de cette droite sociale dans la lutte contre les inégalités. En quoi, finalement, ça sera une forme de trahison ?
Eh bien, c'est peut-être là qu'on ne se comprend pas. Je vous redis que je crois à un code d'honneur politique. Je vois que cela peut paraître incroyablement ringard, curieux de dire cela.
Vous êtes la nouvelle génération, mais oui, donc on s'attend peut-être à une nouvelle façon de voir la politique.
Pas en pire. Je pense qu'il est bien de revenir aussi à une forme de noblesse politique. Je le redis, ce code d'honneur politique, qui consiste non pas à être sectaire, mais à être fidèle. Je comprends que ça se soit effacé du paysage politique, mais c'est ce qui fera demain que nos concitoyens nous respecteront à nouveau. Et donc ma première différence est celle-ci. C'est au fond une différence d'exigence morale. Aujourd'hui, vous citiez quelques noms tout à l'heure, de celles et ceux qui peut-être seraient tentés par l'aventure gouvernementale. Le faire, ce serait d'abord une faute morale.
C'est ce que vous leur dites.
Oui, d'abord une faute morale.
Et
j'irai plus loin. C'est aussi une faute politique.
Et pour les législatives ?
Parce que si demain, dans notre pays, nous continuons à avoir l'affrontement de deux blocs, comme nous l'avons eu depuis plusieurs mois, alors notre démocratie sera continuellement affaiblie et un jour, ça finira mal. Il y a donc à cette fidélité-là...
Ça finira mal, c'est-à-dire ?
Ça finira mal parce que les extrêmes, d'un côté comme de l'autre, parce que je les catégorise de la même manière à mon sens, pourraient emporter la responsabilité politique, ce que je ne souhaite pas pour mon pays. Et donc, à être fidèle aujourd'hui, c'est à la fois une responsabilité morale, et pardon de ne pas le balayer d'un revers de la main, mais c'est aussi une responsabilité politique pour rééquilibrer notre démocratie qui en a besoin.
Qu'est-ce que vous répondez à notre invité précédent qui appelle, Guillaume Pelletier, qui appelle à une union des droites ?
Je ne sais pas ce que c'est l'union des droites.
Vous savez, l'a expliqué en détail.
Oui, mais
expliquer... Comme un bloc de gauche, comme un bloc central, un bloc de droite.
C'est assez simple.
Oui, c'est trop simple pour être intelligent. D'abord, je vois bien ce que le Parti de Reconquête est en train de faire. Ils se croyaient déjà en responsabilité, ils sont en train de voir qui peut les acheter. Ce n'est que cela. Moi, je vais vous dire les choses comme je les pense. Je trouve ce spectacle absolument misérable. Absolument misérable. Quand on a essuyé une défaite électorale, comme c'est le cas des Républicains, on reste dans sa boutique. On ne va pas essayer de se vendre aux uns et aux autres, de s'acheter. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, l'union que je souhaite, c'est l'union des Français.
Depuis quand est-ce que... Tout le monde la souhaite, M.
Pradier.
Oui,
mais pardon, pas dans notre discours politique. Vous voyez bien que depuis des années... et quelques mois singulièrement, tous les débats sont des débats de boutiquiers, sont des débats d'alliances, de groupes
et
de politiques. Je ne prétends pas être au-dessus. Tout ce que je sais, c'est que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de parler au Parti Reconquête, au Parti Rassemblement National, avec qui personnellement je ne me sens pas de point commun. Ce qui m'intéresse, c'est de parler à tous les Français et de sortir de cette logique absurde des parts de marché électoral.
Oui, mais quand votre candidate fait moins de 5%, comment vous faites pour faire l'union des Français si vous ne parlez pas aussi aux autres ?
Mais les autres, ce sont les Français. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler aux caporaux du Rassemblement National ou de Reconquête. Ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de parler aux Français.
Eh bien, vous allez le faire. On va marquer une courte pause, pardonnez-moi. Parler aux Français, mais justement, avec quelle politique ? Parce que pendant 5 années, vous avez beaucoup critiqué Emmanuel Macron pour en arriver là. Donc, quel projet, quelles nouvelles idées et quelle France pour demain ? Puisque vous êtes partie de cette nouvelle génération, on va continuer à en parler sur Europe 1 et CNews. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous en ce dimanche 1er mai en direct à la fois sur Europe 1 et CNews. Deux invités pour ce grand rendez-vous. Nous recevions il y a quelques instants Guillaume Pelletier pour le mouvement Reconquête et à présent nouveau visage de la droite, en tout cas visage de l'avenir, disent certains. Aurélien Pradier, qui est secrétaire général des LR, qui est également député. Un mot quand même sur les législatives, Aurélien Pradier. Sortons des calculs, mais il en faut quand même pour cette élection. Christian Jacob, le patron du parti, ne se représentera pas aux législatives. Tout un symbole quand même pour un parti qui veut continuer à exister. Quel signe voyez-vous ?
D'abord, je veux dire à Christian Jacob tout le respect immense au-delà de l'estime personnelle que j'ai pour lui. Christian Jacob, il a mené de très nombreuses batailles depuis plusieurs décennies.
Avec des défaites, là, dernièrement.
Oui, mais à chaque fois qu'il les a menées personnellement, il les a gagnées. Il a fait un choix personnel qui est de passer à autre chose. y compris d'ailleurs d'une transmission de génération. Et j'ai beaucoup de respect pour cette démarche-là. Il a aussi la... Christian Jacob fait partie de ceux qui ne sont pas engagés en politique pour leur petite personne. C'est un homme qui a servi beaucoup. Et ça aussi, je pense que c'est une belle valeur. Et donc, c'est une page qui va se tourner nécessairement.
Il ne fuit pas le combat électoral, parce que nombre de candidats investis ou en phase de lettres ont finalement décidé de se désister. Donc, on veut essayer de comprendre ce qui se passe au sein de votre parti. C'est ce qu'écrivait encore Le Figaro hier. Pourquoi une telle, certains diront, débandade ?
Christian Jacob a fait le choix personnel, déjà depuis plusieurs mois, de ne pas se représenter au terme de plusieurs années de mandat. Ça n'a rien à voir avec le fait d'accepter de mener ou pas les batailles. Moi, je les mènerai. Ce que j'observe au passage, d'ailleurs, sur ce sujet, c'est que beaucoup de ceux qui jouent les héros politiques... mon prédécesseur à cette place tout à l'heure, qui vous explique que ce sont des grands généraux, qui ont le sens du combat, qui citent Napoléon. Moi, j'ai été maire de Labastide-Murat, un petit village dans le Lot, dans lequel Murat est né. Et Murat, il avait une différence avec tous ces héros de papier. C'est que lui, il menait les batailles. Moi, je serai candidat aux élections législatives, même si c'est difficile, dans un département difficile. Je vois que beaucoup de ceux, notamment chez Reconquête, qui donnent des grandes leçons de courage, sont en train de se dégonfler.
Oui, mais même chez vous, il y en a qui se désistent, Sonia Mabrouk. Mais il y a effectivement un certain nombre de candidats qui étaient sur le point d'être investis et qui finalement décident de ne pas y aller.
Pas des sortants, des femmes et des hommes qui sont dans des circonscriptions difficiles, c'est toujours arrivé, on les remplacera, on aura des candidats. Oui, pour ce qui me concerne, je mènerai la bataille, même si dans mon département c'est difficile.
Mais enfin, c'est le signe de quoi, ils ne veulent pas y aller.
Mais c'est le signe que la situation est difficile. Et c'est le signe qu'il y en a qui sont plus valeureux que d'autres. Et je le redis, oui, mais bien sûr, je ne parle pas de ceux qui ont fait le choix personnel déjà de ne pas y aller. Oui, c'est assez distribué. Le courage politique, vous savez, c'est quelque chose qui est une denrée rare. Mais je redis que je n'accepte pas de recevoir de leçons de courage politique des trouillards d'autres partis qui n'iront pas aux élections législatives parce qu'ils savent que c'est trop difficile. Moi, je mènerai la bataille avec d'autres de mes collègues de toute génération et nous gagnerons cette bataille.
Vous gagnerez, c'est-à-dire ?
Nous gagnerons nos batailles législatives dans chacune de nos circonscriptions. Oui, je suis convaincu que nous pouvons le faire. Parce que nos ancrages territoriaux, nos ancrages personnels, oui, vous pouvez me regarder curieusement, mais je vous assure que dans un département comme le Lot, ce n'est pas l'étiquette politique qui fait la différence. C'est le boulot du député et c'est la sincérité du candidat. Peut-être même la fidélité dont je parlais tout à l'heure. Parce que voyez-vous, beaucoup d'électeurs qui n'ont pas exactement mes convictions.
Et peut-être que vous gagnerez votre bataille, mais pardonnez-moi, quand même, beaucoup se disent à LR que s'ils font face à un candidat avec une étiquette macroniste, ils seront balayés. Telle est la réalité. Peut-être que vous ne voulez pas y adhérer, mais.
Non, je n'y adhère pas parce que. Peut-être, mais ils se trompent. Ils se trompent tactiquement. Parce que la vérité, c'est que dans le Lot comme ailleurs, les électeurs reconnaissent votre solidité et votre fidélité. Et la meilleure manière d'aller convaincre des électeurs qui n'ont pas forcément voté Valérie Pécresse aux élections présidentielles de faire confiance à des députés Les Républicains, c'est d'être fidèle et d'être droit dans ses bottes. Quand on commence à brouiller les cartes, alors on perd.
Alors, je comprends, vous dites qu'il y a des choix personnels, les législatives, on se porte sur un homme davantage que sur une étiquette, mais néanmoins vous demandez aux gens de se présenter sous votre étiquette, étiquette LR. Alors la question que je vous poserais simplement, c'est pourquoi aujourd'hui certains rejoindraient LR, sachant que néanmoins les perspectives électorales ne sont pas très, très avantageuses. Quelle est la marque distinctive d'LR là-dedans? La lutte contre les injustices, j'ai bien compris, mais tous s'en réclament. Donc quel est le petit plus de LR dans tout cela?
Défendre les Français. Depuis 5 ans...
Mais tout le monde dit ça aussi.
Peut-être, mais moi je vais le dire différemment. Depuis 5 ans, qui, concrètement, au-delà de le dire, l'a fait? Depuis 5 ans, qui sont les députés à l'Assemblée nationale qui ont vraiment défendu les Français? Je vous citais des exemples tout à l'heure.
C'est difficile de dire que vous avez le monopole de la défense des Français, quand même, de tous les partis.
Pas le monopole, sûrement. J'aurais pas cette immodestie. En revanche, depuis 5 ans, sur tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, sur la question de la défense des salaires, sur la question du handicap, sur la question des violences conjugales, sur la question de la lutte contre la pauvreté.
Ça a été la candidate du social et du pouvoir d'achat. À l'Assemblée, je vous parle depuis les yeux ce matin.
Je vous parle depuis 5 ans à l'Assemblée nationale. Je reviens un peu plus loin. Depuis 5 ans, ces combats, nous les avons menés. Est-ce que les députés du Rassemblement national les ont menés? Non, pas du tout. Pardonnez-moi, mais ils n'étaient même pas présents dans l'hémicycle. C'est quand même pas un détail. Ils sont peut-être présents sur les plateaux de télé.
Est-ce que la majorité l'a menée? C'est ça aussi votre problème.
La majorité ne l'a pas menée. Non, la majorité ne l'a pas menée. Les exemples que j'ai cités tout à l'heure, ils sont à l'initiative des députés Les Républicains. Est-ce que les députés Les Insoumis ont mené ces batailles-là? Non. Ces batailles, la bataille des députés insoumis a été
de semer
le bazar à l'Assemblée nationale
en tête
et rien de plus.
Au présidentiel, avec tout ce qui a été fait, avec tout le travail qui a été fait, avec tout cet aspect social, avec la défense des Français, avec tout ce que vous nous mettez en place, on se demande pourquoi vous n'avez pas gagné.
Parce qu'il y a des pages sûrement à tourner.
Oui, je conteste pas. Mais est-ce qu'il y a une forme d'introspection peut-être à avoir ce matin?
Ah, bien sûr. et on l'a déjà depuis un bon bout de temps. Moi, le constat premier que je fais, peut-être est-ce que je me trompe, c'est que l'erreur que nous avons commise collectivement, et j'y ai contribué sûrement, depuis quelques années, de penser que la droite française réussissait quand elle était seulement positionnée sur la question identitaire. Je ne le crois pas. Et je le dis ce matin. Je pense que le vrai positionnement de la droite française, c'est d'être en protection
Xavier
des
Bertrand
plus...
Xavier Bertrand l'a porté, ça, la droite
en
sociale.
En protection des plus fragiles.
Aussi.
Oui, mais nous ne l'avons pas suffisamment collectivement porté. Nous l'avons vu lors de ces dernières élections présidentielles, nous l'avons vu lors des élections européennes, nous l'avons vu lors des élections présidentielles où François Fillon était le candidat, même lors de la deuxième campagne de Nicolas Sarkozy. La droite française, elle gagne en 1995 sur la fracture sociale, elle gagne en 2007 sur le travailler plus pour gagner plus. Notre choix stratégique désormais, et c'est ce que je plaiderai, est de se repositionner sur les questions populaires, de devenir demain les vrais défenseurs
donc
des plus fragiles dans notre pays.
Ce qu'a fait Marine Le Pen pour le Rassemblement National, vous souhaitez le faire pour les LR ?
En tous les cas, son positionnement tactique depuis deux mois, qui pour moi était une forme d'imposture, parce que la réalité c'est que l'étiquette sur le bocal avait changé, mais le bocal n'avait pas changé, a payé. D'ailleurs, c'est un constat lucide que l'on peut faire. Durant les quelques semaines qui ont précédé le premier et le deuxième tour des élections présidentielles, est-ce que vous avez entendu Marine Le Pen se surpositionner sur les questions identitaires ? Alors que son fonds de commerce était toujours le même, il n'avait pas changé. Non, elle
oui,
est
allée... Pour une raison, elle affirme que le travail a déjà été fait sur ce sujet, que les électeurs lui reconnaissent une crédibilité sur les questions identitaires et qu'elle peut donc se projeter naturellement vers les questions de pouvoir d'achat. Pour vous, c'est quand même un peu plus compliqué sur les deux aspects, dans les deux domaines.
Je pense que nous sommes... Les Français considèrent que sur les questions régaliennes, la droite est tout à fait crédible, mais c'est un choix tactique que je propose aujourd'hui, plus que tactique, d'en revenir à l'ADN profond de la droite à chaque fois que nous l'avons emporté. Qui aujourd'hui défend les plus petits dans notre pays ? Les plus petits.
Jean-Luc
ceux qui
Mélenchon,
dur,
diront certains.
Eh bien, je refuse.
Ou Marine Le Pen, diront d'autres.
Eh bien, je refuse que demain, la protection des plus petits, des oui, plus humbles dans notre pays, soit confiée à ces deux camps.
Pradier, quelle politique, quelles idées, quels actes, quels programmes ?
C'est tout le travail que nous avons à faire.
D'accord, donc ça, c'est ce qui va commencer avec vous et d'autres.
Bien sûr, et c'est ce qui a commencé depuis 5 ans. Pardon d'y revenir avec insistance. Il y a des choses qui sont passées inaperçues, sûrement, pour plein de raisons, y compris peut-être parce que ça ne vous intéressait pas collectivement.
C'est la faute aux médias.
Non, c'est aussi notre faute. Lorsque, à l'Assemblée nationale, nous menons à 3 reprises la bataille de la lutte contre la pauvreté. 10 millions de personnes sont pauvres dans notre pays, malgré le travail. 3 millions d'enfants sont pauvres dans notre pays. Lorsqu'avec Gérard Larcher, nous faisons tous les deux un déplacement commun pour parler de cette question de la pauvreté des enfants.
Les déplacements, c'est bien, M.
Mais
Pradier.
Plus que des déplacements, des propositions, bien. Et nous en avons faites. Sur le handicap, je vous l'ai dit, nous avons déposé deux propositions de loi majeures. Ce que j'essaie de vous dire, et que je pense profondément, c'est que ce qui désormais structure idéologiquement notre pays, ce ne sont pas les questions identitaires. Ce qui structure idéologiquement notre pays, ce sont
sociale.
Les blessures du Bien. Quotidien.
On va bientôt conclure. À l'instant, Marine Le Pen appelle les électeurs à voter pour le Rassemblement national aux législatives. Ce matin, à la une du journal de dimanche, Jean-Luc Mélenchon dit « Moi, Premier ministre, et vous, que dites-vous »
Je dis que demain, il y a une génération chez les Républicains, d'une droite, je crois, sincère, d'une droite un peu différente, qui va rebâtir... et qui sera la droite qui défendra les plus petits dans notre pays, qui sont les plus méritants. Il nous faudra du temps, je pense que c'est le début d'un chemin.
Et vous en faites partie, évidemment, vous êtes ce promeneur, ce marcheur, si je puis dire, sur ce chemin-là.
Je ne suis pas le seul, non, je préfère l'idée des conquérants que des marcheurs.
Merci Aurélien Pradier, merci d'avoir participé à ce grand rendez-vous. Je remercie Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barret. Bon dimanche 1er mai, évidemment à vous tous, sur Europe 1 et CNews. Bel après-midi. Europe 1.